Il est 20h30 à Paris et Kinshasa, 19h30 temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Des combats intenses ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo. Combat qui oppose l'armée appuyée par ses alliés et le M23 soutenu par les militaires rwandais. Un conseil de défense s'est tenu à Kinshasa. Nouvel appel à un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Dans un communiqué, les partis signataires demandent la tenue d'élections pour mettre un terme à la période de transition. Et puis au Sénégal, chaque année, plus de 30 000 femmes risquent leur vie en avortant clandestinement, interruption de grossesse, qui sont aussi l'une des principales causes de décès maternels dans le pays. Oui, les combats ont donc repris ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo. Combat, je vous le disais, entre l'armée appuyée par ses alliés et le M23 soutenu par des militaires rwandais. Depuis hier, les affrontements se sont concentrés dans les environs de Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Et depuis ce matin, il y a aussi des combats au nord de la capitale provinciale. Pauline Azidi, un conseil de défense s'est tenu à Kinshasa ce vendredi, conseil au cours duquel la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu a été officielle.
Oui, le général-major Peter Chirimwami, officier TFRDC et actuel gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, est mort des suites de ses blessures. En fait, il a été touché hier alors qu'il s'était déplacé vers la ligne de front à l'ouest de Goma. Blessure sérieuse, prise en charge d'abord à Goma, puis il a été transféré dans la nuit vers Kinshasa. Des rumeurs sur son état de santé ont circulé une partie de la journée avant cette annonce officielle du porte-parole des forces militaires. Les honneurs lui seront rendus lors d'obsèques nationales à Kinshasa, a déclaré le général Ekenge. C'est le président Tshisekedi, rentré hier soir tard de Suisse, qui a convoqué ce conseil de défense consacré à la situation autour de Goma. Ce soir, il doit présider le conseil des ministres qui a lieu chaque vendredi, un conseil auquel n'assistera pas la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner. Elle est arrivée aujourd'hui à New York pour saisir le conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il se réunisse en urgence pour évoquer la crise dans son pays, demande appuyée par la France, membre permanent du Conseil.
Et ce vendredi, Pauline Azidi, les affrontements se sont déroulés également sur deux fronts à une vingtaine de kilomètres chacun de Goma.
Oui, vous le disiez, vers Sake à l'ouest, où de violents combats ont déjà eu lieu hier, une position tenue avec les forces de la MONUSCO, la mission onusienne, et celle de la SADC, la communauté d'Afrique australe. Des hélicoptères de l'armée congolaise sont intervenus. Combat aussi à Kibumba, situé au nord de la capitale provinciale. Affrontement violent, mais le verrou est solide, confie une source sécuritaire congolaise. Ces affrontements au nord ont endommagé une ligne électrique importante pour la ville de Goma, celle qui transporte le courant depuis la centrale de Matebe dans le Rutshuru, et la société exploitante Virunga Energy a annoncé que les réparations ne pourront débuter que lorsque les conditions sécuritaires le permettront. Mercredi, c'est une autre ligne qui alimente Goma qui avait été endommagée dans les combats au sud Kivu.
Pauline Azidi, et puis dans un communiqué ce soir, la MONUSCO assure continuer d'apporter son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. La mission de l'ONU dit que ces forces ont été activement engagées dans des combats intenses. 5 casques bleus ont été blessés ce vendredi. 4 ont subi des blessures mineures hier jeudi. La MONUSCO réitère l'appel du secrétaire général au M23 pour qu'il cesse immédiatement son offensive et se retire de toutes les zones occupées. Des combats intenses ont aussi provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes ces derniers jours. L'ONU évoque le chiffre de 400 000 déplacés depuis début janvier. À Goma, la situation humanitaire est catastrophique. C'est notamment ce que nous explique Manenji Manjudu, directeur pays de l'ONG Oxfam.
Nous sommes inquiets. Il y a eu des combats dans le Masisi, puis à Minova, maintenant à Sake. Les gens sont constamment déplacés et tous viennent maintenant à Goma. La ville est pleine à craquer, ainsi que les camps de réfugiés. Cet afflux de déplacés a totalement saturé les infrastructures en place. Les gens occupent maintenant des écoles, des centres communautaires, des centres de santé. Ils cherchent tout simplement à s'abriter et la saison des pluies n'aide pas. Certaines personnes sont vraiment en mauvais état. Nous voyons des femmes et des enfants qui ont clairement besoin de nourriture. sûr. Certains nous disent qu'ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Cette crise humanitaire à Goma est catastrophique. C'est un véritable chaos. Et en plus, tous ceux qui se battent restreignent l'accès humanitaire, ce qui rend les choses très difficiles pour nous. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour négocier des accès grâce à OCHA et faire en sorte que la population puisse continuer à recevoir une aide.
Mon propos recueilli par Alexandra Bonjon. Au Mali, les partis politiques Yelema, Adema, Parena, M5-RFP, Malikoura et d'autres formations lancent un appel aux autorités de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Dans un communiqué daté du 22 janvier, ces formations demandent la mise en place d'un calendrier électoral clair et expriment leurs inquiétudes. Les précisions de David Bachet.
Cela fait 4 ans et demi que l'essentiel de la classe politique malienne demande la tenue d'élections pour mettre un terme à la période de transition. Dans ce dernier communiqué, les partis signataires s'inquiètent notamment du fait que dans son discours à la Nation du 31 décembre dernier, le président de transition, le général Assimi Goïta, ne fasse à aucun moment référence à la tenue de ces élections, qui ont déjà été repoussées à plusieurs reprises. Depuis le dernier report annoncé en septembre 2023, le peuple est délibérément maintenu dans le flou, note les partis signataires, qui demandent l'organisation dans les meilleurs délais d'un cadre de concertation entre le gouvernement et la classe politique et la fixation d'un chronogramme détaillé et précis vers les élections avant la fin du premier trimestre 2025. Les partis demandent également aux autorités de transition de garantir le respect des libertés démocratiques et de l'état de droit, de libérer les prisonniers d'opinion, de permettre le retour des exilés politiques et de mettre fin aux arrestations arbitraires et aux disparitions forcées. Pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel, les partis signataires useront, écrivent-elles, de tous les moyens légaux.
David Bachet, au Sénégal, chaque année plus de 30 000 femmes risquent leur vie en avortant clandestinement. Interruptions de grossesse qui sont aussi l'une des principales causes de décès maternels dans le pays. Face à ce constat et 21 ans après la ratification par le Sénégal de l'accord de Maputo qui autorise en son article 14 l'avortement en cas d'inceste et de viol, les organisations de la société civile appellent les nouvelles autorités à respecter leurs engagements internationaux et à enfin appliquer cet accord de Maputo signé en 2004 et de légaliser l'avortement en cas de viol. Alice Bordarsar est la responsable du bureau droit des femmes et égalité de genre de la Fédération internationale pour les droits humains.
Le besoin, on le voit au Sénégal avec les affaires de petites filles qui sont violées et qui doivent ensuite porter leur grossesse. Là, le cas récent de la petite fille de 9 ans qui est suivie maintenant qu'un suivi médical à Dakar pour prévoir une césarienne, ça met en danger sa vie que de l'obliger à devoir porter cette grossesse qui est issue d'un viol. Il y a un travail extraordinaire de la société civile sénégalaise depuis 10 ans sur la question et avec les nouvelles autorités, il va falloir assurer la continuité de l'État, ne pas repartir de zéro, mais bien prendre en compte toutes qui a été fait en 10 ans par la société civile sénégalaise pour enfin pouvoir modifier la loi et respecter les engagements internationaux du Sénégal pris il y a 20 ans.
Un propos recueilli par Léa Lisa Vesteroff. Enfin, au football, début ce vendredi de la 19e journée de Ligue 1 avec un duel de seconde partie de classement. Auxerre 11e accueille le barragiste Saint-Étienne. Une nouvelle occasion pour les Bourguignons de sortir d'une série de mauvais résultats. Leur dernière victoire en championnat remontant à fin novembre avec pour conséquence une lente et dangereuse glissade vers la zone rouge des Auxerrois. Pas aidé par leur buteur malien, Lassine Sinayoko, en manque de réalisme avec seulement deux buts à son compteur depuis le début de la saison. Mais il tient à raviver sa flamme pour un club qui lui est cher. Et il a prolongé jusqu'en 2026, les précisions de Babacar Diarra.
Lassine Sinayoko a le logo de la JOCR griffé sur la peau depuis 2017. Une fidélité entamée en catégorie de jeunes est rare dans le football contemporain.
Ce club-là, il m'a fait confiance. C'est les seuls qui sont venus me chercher, entre guillemets. Je me dois de leur rendre l'appareil. Le fait que je prolonge à chaque fois, c'est comme leur rendre l'appareil, essayer de leur rendre l'appareil au maximum.
Retrouver de l'efficacité serait une belle manière de rendre à son club de cœur en panne de résultats. Auxerre cherche une victoire depuis novembre. Moi, des deux uniques buts inscrits par l'Aigle du Mali cette saison.
Si je mets le doute dans ma tête, c'est là que les problèmes commencent. Toute l'équipe a confiance en moi, tout le club a confiance en moi, et moi-même j'ai confiance en moi, donc à partir de là, le doute, il n'est pas permis.
Dans le top 4 des équipes de Ligue 1 à la maison, la GIA de Sinayoko reçoit Saint-Etienne avec son 12e homme, le stade de l'Abbé Deschamps.
Je vois aucune personne douter, donc quand tu ressens ça, malgré l'enchaînement de défaites, bah, tu te dis que tu tiens le bon bout.
Un état d'esprit positif, indispensable dans cette mission maintien.
Babacar Diarra, AJOCR, AS Saint-Etienne, coup d'envoi dans 5 minutes, c'est-à-dire 19h45, temps universel, il est 20h40 ici à Paris.